France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui notre invité, dramaturge, essayiste, metteur en scène, interprète, mais qui préfère à tout cela le mot d'auteur, a choisi d'évoquer les essais hérétiques d'un grand philosophe tchèque. Enfin plutôt un essai en particulier qui au lendemain des deux guerres mondiales pose ce concept, cet appel, la solidarité des ébranlés, celle qui unit deux ennemis sur le front au-delà de la guerre et de la nuit. Et cette solidarité des ébranlés, on la doit à Jan Patočka.
De Prague, c'est un autre cri de douleur que nous a ramené notre envoyé spécial, Daniel Bilalian. Celui d'un philosophe marxiste, Jan Patočka, qui ne reconnaît plus ses rêves et ses espoirs dans la réalité oppressante qui l'environne. Pour l'avoir dit, il fut emprisonné. 15 jours plus tard, cet homme, malade, âgé, mourait d'une crise cardiaque. Il nous faut l'entendre, je crois, une dernière fois.
J'ai été interrogé 6 fois, une fois pendant 10 heures de suite.
Nous mettons notre espoir non pas dans des changements spectaculaires, des changements des lois, de constitution, etc., mais dans le changement de la façon de procéder des autorités.
C'est ça.
Nous serions satisfaits si les autorités prenaient vraiment garde à répondre à toutes les pétitions, aux demandes pour lesquelles un délai légal est statué et qu'ils ne reçoivent jamais de réponse actuellement.
Bonjour, ouais, dis-moi, Wad.
Bonjour.
Bienvenue dans Le Souffle de la Pensée. Vous êtes auteur et directeur du Théâtre de la Colline. L'année dernière, saison 2024-2025, bon, on ne dit pas ça pour le Collège de France, mais bon, je dis quand même saison 2024-2025. Vous avez été professeur invité au Collège de France sur la chaire L'invention de l'Europe par les langues et les cultures. Au total, 8 leçons plus une leçon inaugurale publiée aux éditions du Seuil et du Collège de France. Vous y parlez d'ébranlement, de solidarité des ébranlés et vous avez précisément choisi Jan Patočka qui a élaboré. Alors voilà, j'ai parlé de concept, d'appel, je ne sais pas comment on peut le dire. On vient d'entendre sa voix dans cette archive quelques jours avant sa mort en 77. Ça vous a fait quoi d'entendre sa voix?
Ça me touche toujours énormément de l'entendre comme de le lire parce que ça me ramène au fond à la notion d'intégrité, de loyauté, de don de soi et de grandeur d'une pensée. C'est un homme qui est, au fond, moi j'ai toujours pensé que c'est un homme qui est mort debout parce qu'il a subi un interrogatoire qui a duré 16 heures. Et il est tombé, il s'est effondré, il lui interdisait de s'asseoir. Il avait 70 ans, il était assez malade, et donc il n'avait pas le droit de s'asseoir pendant ces 16 heures qui ont été les 16 heures de son interrogatoire, et il est mort suite à ça, et cette image d'un homme qui est mort debout. On raconte aussi que le lendemain, le pouvoir a interdit aux fleuristes d'ouvrir parce qu'il voulait pas qu'on lui rende hommage, donc il voulait pas qu'on lui achète des fleurs. Et or cet homme a tellement œuvré pour le bien de son pays, pas contre, mais pour. Et c'est quelque chose évidemment qui me bouleverse énormément. Et évidemment, mais au-delà de ça, ce sont ses écrits, c'est évidemment, le moment où ça arrive dans ma vie, au moment où je le lis, il y a un contexte quand même assez particulier. Je vis au Canada à ce moment-là, je vis à Montréal.
On est dans quelle époque à peu près?
On est en 1994, on est quelques années après la chute du mur. Je viens de sortir de l'école de théâtre, je suis sorti en 91, donc en 94, j'ai 26 ans, un truc comme ça, 25 ans, et là, il y a Il y a un contexte un peu particulier qui me concerne, c'est que je vis au Canada, donc le Canada est un pays qui n'a pas connu la guerre sur son territoire depuis plus d'un siècle et demi, qui est un pays d'accueil d'immigrants, donc de gens qui ont fui, qui sont arrivés, comme ma famille. On a fui le Liban, la guerre civile. On a fui aussi des contextes de repli identitaire très forts. On vit dedans. Et je suis à l'école de théâtre et je suis en train de diriger un exercice avec les élèves de troisième année. Je viens de sortir et le directeur m'a demandé de faire un exercice avec les élèves de troisième année. Je décide de faire une pièce de théâtre avec eux, qui est une sorte d'adaptation de Voyage au bout de la nuit de Céline et de Mort à crédit. Bon, et c'est les massacres du Rwanda en même temps qu'on répète. Et j'ouvre le journal et c'est 40 000 morts par jour. Et là, je comprends pas ce que je fais. Comment je peux prendre le métro? Comment je peux aller? Qu'est-ce que c'est de marcher dans la rue et de voir les terrasses ouvertes? Je comprends pas ce qu'il y a. Je ne sais plus comment faire pour vivre avec cette conscience-là. 40 000 morts par jour, chaque jour. Radio Colline qu'on n'entend pas mais dont on a les reportages dans les journaux canadiens qui provoquent cette haine. Par sorte de capillarité émotive, il y a toute l'histoire de la guerre civile libanaise qui revient, et il y a le 11 septembre qui n'est pas loin, qui s'approche, mais dont on commence à sentir un tout petit peu
l'extrémisme qui monte,
exactement. Et cette question que je pose aux élèves, mais on fait OK, là on est en train
de théâtre.
À quoi bon le théâtre, quoi? À quoi bon le théâtre, puis à quoi bon ce qu'on est en train de faire, enfin? Et comment on fait, quoi? Comment on fait? Alors, il se trouve que en même temps que tout ça se déroule, un réalisateur de Radio-Canada, la chaîne culturelle, qui s'appelle François Ismer,
Vous citez aussi, hein, à qui vous rendez hommage dans votre leçon inaugurale, Collège France, et même régulièrement, en fait.
Oui, c'est vraiment une figure intellectuelle majeure dans ma vie. Il était réalisateur, voilà, et il préparait une émission sur Patochka, et pour me permettre de gagner un peu ma vie, souvent il me demandait de venir faire des lectures à la radio, parce que c'était quand même bien payé, donc j'allais, bon voilà. Et il me dit, est-ce que tu peux me lire ce texte? Et pour la radio, je dis oui, donc il me passe un texte qui est donc ce passage tiré des Essais hérétiques, qui est sur la solidarité des ébranlés. Et là, je tombe sur cette phrase, que je vais citer de mémoire, mais je la relirai tout à l'heure. Ceux qui trahissent la solidarité des ébranlés doivent savoir qu'ils sont des embusqués qui, à l'arrière, vivent grâce au sang d'autrui. Et là, cette phrase-là me bouleverse, mais même en lecture, à la lecture de... Je suis complètement, vraiment, comme si cette phrase disait notre situation et pointait le questionnement que je n'arrivais pas à résoudre. Comment je fais pour...
Votre culpabilité,
savoir...
en fait.
Mais la culpabilité, mais aussi la responsabilité, mais aussi le sens. Qu'est-ce que c'est être, hein, on fait du théâtre, on est artiste, donc on est supposé être, je sais pas quoi, des phares dans la nuit, enfin,
c'est conneries.
Voilà, merci. Tous ces trucs-là qu'on nous apprend, et que là, bon, bah, il y a 40 000 personnes qui sont massacrées à coups de machette par jour. Et le Rwanda est une sorte de révélateur d'une violence extrême, comme s'il effaçait toute magie possible, toute fiction, tout acte poétique. Comme si je revivais d'une façon un peu détournée, un tout petit peu amateur, je dirais, cette phrase d'Adorno qui dit « Bon, bah voilà, après Auschwitz, il ne peut pas y avoir de poésie. » Bon. Et en lisant cette notion, en rentrant dans cette idée de cette solidarité des ébranlés, je trouve un fil, mais un fil tout mince. Et je me souviens, je suis arrivé en répétition, j'ai assemblé les acteurs, je leur ai dit « Voilà, voilà ce qu'on va faire. On va... » C'est c'est peanut, hein, c'est grain de sable, hein, c'est rien du tout par rapport à ce qui est en train d'être vécu. Mais ça va être, ben, de toute façon, on va faire quoi? On va quand même pas prendre un avion et aller au Rwanda pour aider les gens. C'est complètement débile. Deux, on va surtout encombrer les gens. Trois, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Il faut le travailler autrement. D'abord, il faut le travailler à notre endroit, au plus intime. Je dis, voilà ce que je vous propose. On va tout recommencer ce qu'on est en train de faire. Voilà, notre réalité, c'est que vous êtes en troisième année. Moi, je dois faire une pièce de théâtre avec vous. Alors voilà ce qu'on va faire. On va se faire une promesse. Avant d'entrer sur le plateau, vous allez aller tout simplement penser à quelque chose dans votre vie qui vous est arrivé ou qui vous arrive ou qui est en train de vous arriver ou qui ne vous est pas arrivé. Mais peu importe quoi, vous allez chercher ce qui vous ébranle. Ce qui va vous ébranler un tout petit peu. Donc, et ce n'est que quand vous l'aurez ressenti que vous entrez sur le plateau. Et on ne peut plus entrer sur un plateau que ébranlé. Et non pas, parce que souvent au théâtre, on nous dit il faut entrer avec une forme de force, d'énergie, il faut savoir ce que tu veux faire, il faut avoir une intention claire, il faut savoir ce que veut ton personnage. Je dis ça, il faut rien savoir du tout.
Donc là, vous avez complètement changé même votre approche du théâtre.
Oui, complètement.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Rwanda, lire Patochka, voilà, ce philosophe, vous l'avez dit, Wajid Mouad, qui, voilà, a résisté au régime communiste. Il a quitté quand même, enfin même, il a été sommé en fait de quitter ses postes à l'université. Il a enseigné secrètement la philosophie. Il a écrit secrètement les essais hérétiques. C'est d'abord des essais qui ont été publiés clandestinement.
Oui.
Donc, à partir du moment où vous lisez cette phrase-là, ce mot même, et vous avez raison, il y a aussi un côté grain de sable dans ce terme parce qu'il apparaît seulement dans un essai. Alors à plusieurs reprises, on va entendre plusieurs extraits avec la solidarité des ébranlés, mais c'est presque rien. Au début, quand vous nous avez dit à Manon Delassalle, moi je veux travailler sur les essais hérétiques, et ce mot-là, c'est un mot dans 300 pages, voilà, on se dit comment ça peut tout changer dans une vie, dans le rapport à l'histoire, dans le rapport au théâtre, mais plus qu'au théâtre, à la vie.
Oui, c'est parce que ce mot apparaît comme une respiration possible dans un, alors que tout était en train de s'étouffer. Je viens d'une guerre civile, je viens d'un exil, d'un deuxième exil, de mort, de perte, de destruction, de fragmentation. Je viens d'une guerre qui est
donc la guerre au Liban,
la guerre civile libanaise, qui est une guerre complètement calcifiée par des positionnement identitaire confessionnel très fort, hein. Le Liban, c'est 19 confessions qui ont vécu pour la plupart complètement repliées sur elles-mêmes. Moi-même, j'ai grandi dans un rapport identitaire, dans un repli identitaire dont il a fallu énormément contre lequel il a fallu que je me débatte, contre mes parents, contre ma communauté chrétienne, maronite, voilà. Et la question, cette solidarité des ébranlés qui arrive, dit une chose au fond très simple. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je crois que je l'ai compris complètement de travers. Hein, mais c'est ce travers-là qui est intéressant.
Oui, je précise, Wajid Mouad, que vous m'avez dit avant l'émission, moi, je suis pas philosophe.
Alors, pas du tout.
Voilà, enfin, on va pas faire un cours de philo. Je vais pas vous demander de m'expliciter Patochka. Surtout
merci.
Que les premiers essais hérétiques, les premiers essais, c'est vraiment sur la phénoménologie de Husserl, de Heidegger. Ouais, c'était un élève de ces phénoménologues-là, Yann Patochka. Donc, c'est très compliqué, même quand on a fait de la philo. Et puis tout à coup, voilà, on arrive dans ces essais, on chemine et on avance vers cet avant-dernier essai, voilà, qui s'appelle La guerre au XXe siècle et le XXe siècle en tant que guerre. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de, je dirais pas lumineux parce qu'il n'est question que de nuit dans le sexe, mais vraiment de beaucoup plus profond. Donc pas de cours sur Patochka.
Non, tout à fait.
Je vous rassure, mais oui. Cette idée intéressante qu'en fait on peut comprendre en comprenant de travers, c'est
oui,
ça.
C'est ça. En tout cas, est-ce que je comprends de travers, qui est peut-être pas complètement de travers, et que je résume en fait comme ça en disant en fait, qu'est-ce qui peut unir deux individus que tout sépare et qui sont en train de se tirer l'un sur l'autre sur le champ de bataille. Il y en a un qui a une mitraillette, il y en a un autre qui a une mitraillette. Ils sont au front, et ils se tirent dessus. Tout les sépare. Qu'est-ce qui peut les unir? Quelle est la solidarité qui peut les unir? C'est pas la solidarité des artistes ne peut pas unir l'ensemble. Tout le monde n'est pas artiste. La solidarité des intellectuels ne peut pas unir tout le monde. Tout le monde n'est pas intellectuel. La solidarité des ouvriers ne peut pas unir tout le monde. Tout le monde n'est pas ouvrier. Quelle solidarité peut unir tout le monde? Et cette notion d'ébranlement est arrivée comme un un lieu d'universalisme, un lieu de partage, un lieu de rencontre, un lieu d'égalité. On est tous ébranlés. Et deux personnes qui sont en train de se tirer dessus sont ébranlées par le fait de se tirer dessus, même si au fond ils l'ont complètement effacé, enterré à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a quand même le fait de cet ébranlement en partage. Et moi qui viens d'une guerre civile, qui a vu les confessions se crisper d'une façon extrêmement haineuse les unes envers les autres, je me suis rendu compte que ce mot d'ébranlement, en fait, il nous unissait. Et ça m'a amené, en fait, dans les essais hérétiques, il y a une phrase toute simple qui est, quelle différence y a-t-il entre posséder la vérité et chercher la vérité? Et au fond, qu'est-ce qui t'intéresse? Et je me suis rendu compte que c'est pas posséder la vérité qui m'intéresse, mais la chercher. C'est deux positions dans la vie qui sont totalement différentes. Être propriétaire ou être locataire. Je préfère être locataire. Je préfère pas être propriétaire. Et aussi parce que il y a dans cette idée de l'ébranlement une manière de se positionner d'une façon complètement différente face à celui avec lequel on est absolument et diamétralement opposé. C'est-à-dire, mettons aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. Prenons deux personnes qui sont diamétralement opposées l'un envers l'autre sur cette question-là. Mettons la question de la création de deux États ou pas, ou la question... Bon, ok. Prenons deux personnes sincères, mais que tout oppose, et qui argumentent. Les uns, il y en a A argumente, B argumente, ils sont absolument pas d'accord sur rien. La solidarité des ébranlés m'a amené à comprendre, au fond, qu'il y a peut-être un passage à faire qui est le suivant et qui est totalement paradoxal. Si vous prenez quelqu'un avec lequel vous n'êtes absolument pas d'accord, c'est-à-dire, vous n'aimez pas comme il pense, on va dire, pour le dire simplement. Vous n'aimez pas sa pensée. Mais, visiblement, lui, il aime sa pensée, sinon il la défendrait pas. Tout comme vous, vous aimez votre pensée, sinon vous la défendriez pas. Alors peut-être qu'il y a un chemin de travers à prendre un temps, et on arrive à un paradoxe assez passionnant. Si vous dites, ok d'accord, stop, j'ai besoin que tu me racontes, essaye de me raconter, en prenant ton temps, pourquoi tu aimes penser, qu'est-ce qui fait que tu aimes penser comme tu penses? Raconte-moi le chemin. Raconte-moi tes parents, raconte-moi ton chemin, les livres que t'as lus, les profs que t'as eus, les copains, les amours, les machins. Raconte-moi tout le chemin qui fait qu'aujourd'hui tu aimes penser comme tu penses. Si la personne prend le temps de raconter tout son chemin, il y a un phénomène assez intéressant qui se passe, c'est que on va être à peu près à 90% en empathie avec la personne qui raconte, et on est presque d'accord avec lui sur tout le chemin. Donc, en fait, la question du désaccord, elle est à un endroit qui est peut-être beaucoup plus réduit que l'on pense, même avec la personne avec laquelle on est le moins d'accord au monde. Et là, il y a un paradoxe, parce qu'on peut être totalement en désaccord. C'est comme si... c'est comme la physique quantique, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il y a un paradoxe, on n'arrive pas à mettre ensemble la mécanique quantique avec la théorie de la relativité, c'est un peu la même chose.
Moi j'y connais rien, donc je vous fais confiance, je vous suis sur ce point.
Dans l'infiniment petit, les éléments se comportent d'une manière que contredit complètement la matière dans l'infiniment grand, on va dire, pour le dire très très vite. Pourtant, c'est le même monde. Alors, comment ils peuvent s'opposer? Eh ben, c'est un peu la même chose. Dans l'infiniment petit, c'est-à-dire dans le chemin qui fait qu'on aime penser comme on pense, ça semble suivre un chemin avec lequel on est d'accord. Mais dans l'infiniment grand, c'est-à-dire lorsque la pensée est posée comme un bloc, on est absolument en désaccord. Et ce paradoxe-là, au fond, je pense qu'il a comme grain de sable cette notion d'ébranlement, cette question de fragilité, d'effondrement que l'on peut subir lorsque l'on est en face de l'autre et que tout à coup, on prend le risque de la vie, on prend le risque de s'avancer vers l'autre avec qui on est et d'accueillir l'autre avec qui il est. Et là, ce risque-là, c'est cette notion d'ébranlement. Et cet ébranlement-là, de ce que j'appelle l'avancer vers l'autre et de prendre le risque que l'autre avance vers soi pour que surgisse le désaccord, le conflit, c'est ça le théâtre. C'est exactement ça le théâtre. Et là où je dis que ça a énormément changé ma manière de travailler, c'est que ça a complètement changé ma façon d'écrire. C'est-à-dire, au fond, quand je me mets à travailler, à écrire une pièce, c'est toujours un peu la même promesse que j'essaye de me tenir, c'est de pas oublier le Rwanda, en fait, pour le dire comme si, rappelle-toi, quand tu étais en train au Canada, qui est... Le Canada est un pays tout à fait particulier, c'est tellement grand et il y a tellement peu de gens qui habitent par rapport à la surface. Vous voyez, le Québec c'est 7 fois plus grand que la France et la France est 2 fois plus peuplée que le Canada. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre comme on l'entend. Il y a d'autres sortes de guerres au Canada. Il y a d'autres sortes de conflits. Mais quand on vit là-bas, on a l'impression d'être vraiment, pour reprendre le terme que Patochka utilise, un embusqué. En tout cas, c'est facile. On peut dire, moi, je suis au Canada, je vis ma vie, tranquille, il n'y a pas de problème. Voilà, le reste du monde, bon, bah ouais.
Le monde continue à ce qu'il est.
Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse et tout ce défaitisme dans le confort, c'est insupportable. insupportable.
Et ça vous a insupporté?
Ah ouais, ça m'a vraiment insupporté, pas possible.
Vous avez dit, Wajid Mouad, que l'ébranlement, c'était une condition universelle. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce qu'on peut vraiment tous être ébranlés par quelque chose? Il y a des événements dans la vie qui font qu'on est véritablement ébranlés. Vous avez parlé de votre enfance, le fait d'avoir vécu la guerre civile au Liban, d'avoir fui en France puis après au Canada. Voilà, comme vous l'avez dit, au Québec, comment on fait pour même avoir accès à une forme d'ébranlement? Vous avez souligné aussi que vous disiez à vos élèves à ce moment-là, trouvez en vous quelque chose qui pourrait ou qui a pu vous ébranler, mais comment on est sûr de ça? Puis en fait, il y a ce terme d'ébranlement qui est quand même assez intéressant, parce que être ébranlé, c'est pas s'effondrer non plus.
Non.
Et c'est plus qu'un vacillement. C'est vraiment quelque chose de particulier. Donc comment on sait qu'on a été ébranlé? Est-ce qu'on peut tous l'être?
Je crois qu'on l'est tous. Hein. On l'est absolument tous.
Même quand on n'a rien vécu? Même quand on est au Québec, tranquille, comme vous
bien
dites.
Sûr, je vais vous donner...
Je dis rien, je ne connais pas le Québec.
Bien sûr, mais dès que vous mettez le doigt dans la notion d'humanité, vous êtes ébranlé parce qu'il y a le Rwanda, parce qu'il y a l'Ukraine, parce qu'il y a le Soudan, parce qu'il y a Gaza, parce qu'il y a votre voisin, parce qu'il y a la voisine, parce qu'il y a la jeune fille violée à côté de vous, parce qu'il y a votre sœur, parce qu'il y a votre frère. Dès qu'on me fait entrer l'humanisme, j'allais dire l'amour, mais même pas l'amour. Mais je vous donne un exemple tout simple. Imaginons que vous avez une sœur jumelle et que cette sœur jumelle a été agressée, mettons. Supposons un exemple, voilà, elle a été agressée, elle est sortie un soir et elle s'est fait agresser. Et puis le dimanche suivant, il y a une fête à la maison, voilà, il y a un repas de famille. Et puis tout le monde vient pour une raison ou une autre. Et il y a l'oncle un peu épais, celui qui boit un peu trop et qui finit comme ça.
Oui,
ça peut être la tante ou la cousine ou la voisine ou le même, peu importe, qui et qui commence à prendre votre sœur jumelle à votre comme ça. Ouais, mais qu'est-ce que t'avais? C'est pas un peu de ta faute? Il commence vraiment. Et vous, elle est assise à vos côtés, ok? Elle est assise à vos côtés. Et vous sentez qu'elle est incapable de se défendre. Elle est incapable de parler. Elle est incapable de prendre la parole. Elle est incapable de prendre la parole pour se défendre contre ce qui est en train. Parce qu'elle n'a pas les moyens. Parce que cette agression l'a fait se taire. Elle fait en sorte que la parole devient, impossible pour elle, elle peut pas. Qu'est-ce que vous faites? Supposons que vous, voilà, c'est votre sœur jumelle, vous faites quoi? Vous laissez passer? Ou vous prenez la parole? Ou vous dites stop? Si vous dites stop, vous le dites pas pour vous, vous le dites pour elle. Donc vous vous mettez à parler pour quelqu'un, vous dites pas ça pas pour vous. Vous, ça va, vous avez pas été agressé, vous. Alors évidemment, c'est la situation qui vous agresse, mais si on fait un dépassement encore plus grand, qu'est-ce que c'est que de prendre la parole pour celui qui ne peut pas parler? Qu'est-ce que c'est que de s'engager? Qu'est-ce que c'est être actif dans la vie? Qu'est-ce que c'est entrer dans la vie, entrer dans le sens le plus grand? Qu'est-ce que c'est sortir de la maison? Les Grecs, hein, le mot maison en grec ancien, c'est écho. Hein, économie, c'est la loi de la maison.
Oui, c'est voilà. Ce qu'a donné les, ouais.
Voilà, l'économie, c'est la loi de la maison. Ouais. Ok, qu'est-ce que c'est sortir de la maison pour entrer dans la ville, pour entrer chez les autres, pour aller dans la cité? Et une fois dans la cité, on fait quoi? On continue à vivre comme si c'était la maison, comme des idiots, en disant « oui, mais moi, chez moi, ça va ». Eh ben, c'est pour ça que celui qui n'est pas ébranlé est un imbécile, est un idiot. Ça veut dire qu'il reste chez lui, il ferme, il claque, il ferme les portes. Comme dans la chanson de Brel, hein, sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à tourner, mais on ne veut pas la voir, alors on ferme les volets. À cette chanson de Brel, c'est ce qui est raconté, c'est que de quelle manière vous vous impliquez dans le monde. Il y a votre histoire. Mais il y a aussi l'histoire des autres. Ça me fait penser à une phrase qu'on retrouve dans le Talmud qui est sidérante de force aujourd'hui. Première question. Qui témoignera de moi, sinon moi? Réponse. En témoignant que de moi, suis-je encore moi? Et cette pensée, qui témoignera de moi, sinon moi, c'est vrai. Qui va raconter mon histoire, sinon moi-même? Et l'autre qui lui dit, d'accord, mais si tu ne parles que de toi, est-ce que tu es encore toi?
Oui.
Bon,
et si tu parles de toi comme d'un autre, es-tu encore finalement toi?
Exactement, voilà. Et alors, parle de l'autre, passe par le chemin. Alors là, c'est marrant parce que j'ai beaucoup hésité entre...
Patochka,
j'ai hésité entre Maria Zambrano, j'ai essayé Emmanuel Levinas, j'ai essayé Michael Stotter, qui sont des philosophes que je n'ai pas compris, hein. Il n'y en a aucun que j'ai compris, je suis incapable de lire la philosophie, mais je les comprends de travers. Mais ce travers-là, en tout cas chez moi, il est toujours extrêmement émotif. Et il passe, il a pour fonction peut-être, mais ça c'est peut-être une sorte d'obsession, qu'on peut comprendre, je crois, enfin que moi je comprends par ma position à la fois dans la famille où j'ai grandi et dans cette histoire de la guerre civile libanaise. Cette obsession, c'est celle de la réconciliation. Enfin, comment on fait pour se réconcilier?
Là, c'est la solidarité qui rentre en jeu. Oui, c'est plus l'ébranlement, c'est la solidarité.
Oui, oui. C'est-à-dire celui qui t'agresse est aussi ébranlé que toi qui es agressé parce qu'il t'agresse. Donc, ok. Alors, comment on fait pour sortir de ce chemin, et en fait la solidarité des ébranlés, elle m'apprend aussi une chose, c'est de me méfier de toute idée de fixité, parce que si je me fixe, c'est-à-dire il y a quelque chose que je vais laisser échapper. Ça rejoint cette pensée de Camus qui dit que Camus dit solitaire mais solidaire. Il dit voilà la fonction qu'on doit avoir, qu'un être humain doit avoir, c'est d'être solitaire mais solidaire. Et il ne s'arrête pas. Et dans cette idée de solitaire mais solidaire, il y a cette idée aussi de à un moment donné, il pose la question de l'écrivain. Il dit l'écrivain, c'est celui qui doit passer par le rôle du juge et du bourreau et de la victime, et puis du juge et du bourreau et de la victime, et puis du juge et du bourreau et de la victime. Il ne doit s'arrêter à aucun, mais il doit passer par les trois. Et évidemment, le chemin le plus difficile, c'est celui du bourreau. Mais celui qui ne s'arrête que dans le rôle de victime, il tombe petit à petit dans un glissement qui va lui faire croire que jamais il sera un bourreau. Donc, il ne se méfiera plus il ne sera plus sur ses gardes quand t'as sa possibilité d'être un bourreau, puisque plus il est victime, plus il est convaincu qu'il sera jamais un bourreau. Il peut même plus s'imaginer comme un bourreau. Il peut à la limite s'imaginer comme juge, parce que bon, c'est pas mal juge. Mais victime, il se fixe dans cette position de victime. Plus il se fixe, moins il peut s'imaginer bourreau, plus il y a des dangers qui le deviennent.
Et on retombe sur l'empathie, mais aussi sur le théâtre.
C'est-à-dire,
le théâtre, c'est précisément occuper toutes les positions.
Toutes les possibilités, ouais.
En partant justement de cet ébranlement. Wajdi Mouad, on va écouter un extrait de Patochka, et notamment de ses essais hérétiques sous-titrés sur la philosophie de l'histoire. C'est un extrait des guerres du XXe siècle et le XXe siècle en tant que guerre.
L'ennemi n'est plus un adversaire absolu sur le chemin de la volonté de paix. Il n'est plus ce qui n'est là que pour être supprimé. L'ennemi participe à la même situation que nous. Il découvre avec nous la liberté absolue. Il est celui avec qui nous pouvons parvenir à une entente dans l'opposition. Notre complice dans l'ébranlement du jour, de la paix et de la vie dépourvue de ce sommet. Ici donc s'ouvre la sphère abyssale de la prière pour les ennemis, le phénomène de l'amour de ceux qui nous haïssent, la solidarité des ébranlés, malgré leur antagonisme et le différend qui les sépare. La découverte la plus profonde du front, c'est cette avancée de la vie dans la nuit, le combat et la mort. L'impossibilité de rayer de la vie ce paragraphe qui, du point de vue du jour, apparaît comme pure et simple non-existence. La transformation du sens de la vie qui se heurte ici au néant, à la frontière infranchissable qui est la figure ultime de tout.
Pour les auditeurs et auditrices qui auraient peur de lire du Jan Patočka, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué, il faut aller jusqu'au bout de cet essai. Il y a quelque chose de fondamental qui se joue, quelque chose de mystérieux qui concerne profondément l'être. Enfin, je ne sais pas comment le dire, c'est beau, c'est incroyable. On l'entend dans cet extrait qu'on a entendu, lu par Nicolas Berger, avec cette idée de cette avancée de la vie dans la nuit. Alors voilà, il y a cette image de la nuit pour Patočka. Il se pose la question dans cet essai de se dire pourquoi, en fait, on regarde toujours la guerre dans l'optique du jour, c'est-à-dire de la paix, toujours pour en sortir. Pourquoi, en fait, on ne veut pas affronter la guerre dans ce qu'elle a de nocturne dans cette nuit? Et vraiment, cette idée de nuit qui est niée par ceux qui ont vécu la guerre. Et donc, le lendemain des Secondes Guerres mondiales, quand il parle, mais aussi aujourd'hui, vous avez parlé du Rwanda, on pourrait parler de Gaza, de l'Ukraine. Voilà, cette question de la nuit, vous, ça vous évoque quoi, Wedji Mouawad?
Ça m'évoque quoi? Je dirais que ça m'évoque d'abord une chose, c'est que on ne sait pas ce que c'est d'être au front. C'est une des premières choses que j'entends. C'est qu'on ne sait pas ce qui se passe au front. On ne sait pas ce qui se passe dans le corps de ceux qui y sont, de ceux qui s'y trouvent, et que dans ceux qui y sont, il se joue des choses qui sont peut-être pas aussi simples que l'on peut les imaginer lorsqu'on est à l'arrière, lorsqu'on reçoit les nouvelles par les journaux, où les choses souvent se simplifient de façon assez, mais c'est normal, de façon très très structurelle. C'est-à-dire on dit ouais, la guerre c'est horrible, la
quand on est dans la vie du jour, en fait.
La vie du jour, voilà.
Voilà, Patočka parle de quotidienneté.
Exactement. Et que cette quotidienneté nous renvoie une vision qui a l'air tout à fait juste, mais qui ne correspond peut-être pas à ce qui se joue véritablement lorsque on est dans la nuit du front. On est dans la terreur du front. Et que dans cette terreur du front et dans cette nuit du front, il y a là, puisque de toutes les façons cela est, on pourrait dire, cela est, ça peut pas, on peut pas l'arrêter. On peut pas l'arrêter là, on peut pas arrêter la guerre en Ukraine comme ça. Enfin, nous, on n'a pas les moyens. Ceux qui le font n'ont pas les moyens de l'arrêter. Ils y sont. Et donc, cela est, dans cette nuit, qu'est-ce qui se joue dans le rapport à l'ennemi? Qu'est-ce qui se joue dans le rapport à l'humanité, à la pensée? Et que comment on peut le faire émerger pour arriver à atteindre une pensée qui va dépasser cette notion simplement de paix qui n'est qu'une attente d'une guerre qui va revenir. Et Patočka, ce qu'il évoque, c'est il revient un peu sur cette idée d'une Europe qui se construit non pas par l'avancée technologique, qui n'est pas grande par sa puissance technologique ou sa puissance économique, mais qui est grande par son humanisme, par son rapport à ce qu'elle a pu apporter à l'histoire de l'humanité.
Ouais, il ne veut pas parler du voilà, parce que c'est vrai, vous faites bien de le rappeler. C'est vraiment. Que va devenir l'Europe? Voilà. Comment réactiver l'Europe, mais pas comme une puissance politique, technologique, technique, sociale, mais vraiment comme un concept vivant.
Exactement, comme s'il disait, au fond, la plus belle chose que l'Europe peut apporter, c'est les idées, c'est la grandeur des idées qui peuvent en émerger, en fait. C'est un peu comme s'il disait de l'arbre du malheur peut pousser des fruits qui sont des fruits d'une très grande force et d'une très grande pensée, un peu comme on pourrait dire dans la vie d'un individu, voilà, s'il n'avait pas connu cette expérience terrible, il n'aurait pas pu atteindre, par le jeu des conséquences, cette situation. C'est-à-dire, par exemple, un exemple tout simple, moi, si je n'avais pas connu la guerre civile libanaise, je ne ferais pas théâtre.
C'est pas un exemple tout simple. Hein.
Non, c'est pas tout simple, mais ce que je veux dire, c'est tout. voilà, les enfants que j'ai, ils n'existeraient pas.
Ouais.
Les bonheurs incroyables que j'ai vécus, je les aurais pas vécus si j'avais pas eu l'exil. Donc, en fait, une très grande partie du bonheur que j'ai vécu, je le dois à des malheurs épouvantables.
Mais oui, mais vous, cette idée, vous la répétez souvent, Wadji Mouawad, c'est que, voilà, il faut savoir pourquoi tout ce qui est merveilleux, on le doit à l'horreur. Mais, je sais pas, Tochka, c'est pas encore ça. Il faut être dans l'horreur, là, dans le texte.
Oui.
Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de jour.
Non.
Il n'y a pas, voilà, vous êtes déjà dans l'après. Vous êtes déjà beaucoup plus
oui,
loin
très juste.
Que Patochka. Mais là, la nuit, il y a quelque chose de, et on n'est pas, il faut aussi le dire, la nuit dont il parle, la guerre, c'est pas la guerre crade. Sale, c'est pas les tranchées, c'est quelque chose de beaucoup plus métaphysique. Il parle d'Héraclite qui dit que Polémos, la guerre, c'est vraiment voilà, le père de la cité. Alors comment on fait pour vivre après ça? Parce que dans le texte, il est quand même question de prière, d'amour. Ben, comment on fait pour s'aimer quand en fait il y a tant d'horreurs dans la nuit même?
Alors, je vais vous raconter une histoire, parce que je suis absolument incapable de répondre à votre question, évidemment, mais je ne sais pas comment...
Je suis sûre que votre histoire va répondre d'une certaine manière.
Mais, il y a une herbe en Amérique du Sud qui n'est absolument pas hallucinogène, qui est... non, mais je tiens à le préciser, parce que je ne voudrais pas que les gens se fassent des idées à mon sujet, qui est, quand on va en Amérique du Sud, comme ça, et on rencontre des médecins herboristes, il n'y a pas que l'ayahuasca et ce genre de choses. Il y a aussi des plantes qui sont absolument pas hallucinogènes, qui sont des plantes réparatrices. Or, il y en a une qui s'appelle Kalinka, qui est une plante tout à fait particulière. Cette plante a ceci de particulier, quand vous l'absorbez, elle fait revenir à la surface toutes les douleurs que vous avez eues et que la médecine occidentale a apaisées pour pouvoir vous soigner. Par exemple, une rage de dents. Prenez un aspirine, on vous arrache une dent, voilà, vous avez plus mal, c'est fini, le mal est passé. C'est-à-dire que la médecine occidentale a ceci de particulier, qu'elle a des moyens très puissants d'apaiser la douleur pour pouvoir ensuite soigner le mal. Dans d'autres cultures, la notion du mal, c'est-à-dire avoir mal, est abordée autrement, d'une manière peut-être un peu moins confortable. Il s'agit d'avoir mal jusqu'au bout. Il ne s'agit pas d'arrêter le mal, mais d'avoir mal jusqu'au bout. Parce qu'il y a un moment donné où il y a une acmé de la douleur. Très concrètement, si vous avez une rage de dents, à un moment donné, vous avez mal, vous avez à un moment donné très très mal, à un moment donné, vous avez envie de vous frapper la tête contre le mur, à un moment donné, vous avez envie de vous jeter par la fenêtre, mais à un moment donné, bon, ça ne peut pas aller plus loin. Et puis, vous atteignez l'acmé de cette douleur, et il y a à un moment donné une disparition de cette douleur, et il y a au-delà de cette douleur autre chose qui apparaît, qui est un cadeau, au fond, d'une certaine façon. Cette plante, Kalinka, a ceci de particulier, qu'elle va ramener à la surface toutes les douleurs au bout desquelles vous n'avez pas été et que la médecine occidentale a calmé. C'est une souffrance, hein, parce qu'une fois que vous prenez cette herbe, eh bien, vous, pendant 8 heures, votre ongle incarné, votre dent de sagesse, votre poignet que vous avez cassé, etc., tout revient. Tout revient, mais de manière vraiment décuplée.
Vous l'avez expérimenté ?
Ouais. Et là vraiment vous voulez vraiment mourir quoi,
ouais.
C'est pas compliqué. Et là vous rentrez dans la nuit, vous rentrez vraiment dans une nuit de douleur. C'est douleur, c'est très concret hein, je parle pas, c'est pas une douleur mon Dieu, c'est pas psychologique, vous avez très mal au poignet parce que quand vous étiez enfant, vous vous êtes cassé le poignet en jouant au foot, on vous l'a réparé.
C'est pas la douleur et sa mise en scène qu'on
non,
peut avoir,
vous avez mal point.
Ouais.
Et là au bout de 8 heures, ça s'arrête et ben faut recommencer le lendemain. Parce qu'il faut recommencer jusqu'à ce que vous n'ayez plus mal.
Alors, jusqu'à ce qu'on ait plus mal ou jusqu'à ce que on s'habitue à la douleur et
non,
qu'elle disparaisse
jusqu'à ce que la douleur ait pu s'exprimer jusqu'au bout.
C'est intéressant parce que d'ailleurs, Patočka, dans son essai, dit, en s'appuyant sur Hans Junger et Pierre Teilhard de Chardin, voilà, qui ont eu l'expérience de la guerre de cette nuit-là, dit en fait que ça se vit comme une expérience absolue.
Oui.
Et il précise une liberté absolue affranchie de tous les intérêts de la paix, de la vie, du jour. Donc c'est ça qu'on expérimente là.
C'est-à-dire qu'il y a un moment d'obscurité. Il y a vraiment un moment d'obscurité, il n'y a plus rien. Et là, vous êtes toujours là quand même. Vous êtes toujours en vie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce qui surgit de nouveau? Qu'est-ce qui reste? Et quand c'est vécu collectivement, c'est-à-dire par un groupe, c'est pas seulement un individu, mais un ensemble, quand c'est vécu, ce point d'acmé, ce point d'obscurité absolue, peut être, on va dire, l'espace d'où peut apparaître quelque chose de... justement, qui n'est pas thérapeutique, qui est peut-être à un autre niveau que je suis absolument incapable de nommer là.
Comment l'expérience du front pourra-t-elle changer de forme pour devenir un facteur historique? Pourquoi n'en est-elle toujours pas un? Parce qu'elle demeure une expérience individuelle. Chacun est projeté isolément vers son sommet, dont force lui est de redescendre ensuite vers la quotidienneté, où inéluctablement la guerre s'empare de lui à nouveau en tant que planification de la force en vue de la paix. Le moyen de dépasser cet état, c'est la solidarité des ébranlés. La solidarité de ceux qui sont à même de comprendre ce dont il y va dans la vie et la mort, et par conséquent dans l'histoire. De comprendre que l'histoire est ce conflit de la vie nue, enchaînée par la peur, avec la vie au sommet, qui ne planifie pas le quotidien à venir, mais voit clairement que le jour ordinaire, sa vie et sa paix auront une fin. Celui seul qui est à même de comprendre cela, celui qui est capable d'un revirement, est un homme spirituel. Or l'homme spirituel comprend toujours, et sa compréhension n'est pas une simple constatation des faits, elle n'est pas un savoir objectif, bien que le savoir objectif soit pour lui à maîtriser et à intégrer au domaine de ce qui est son affaire et qu'il domine.
La solidarité des ébranlés, ébranlés dans leur foi, en le jour, la vie et la paix, c'est la solidarité de ceux qui comprennent. Dans les circonstances actuelles, cette compréhension ne peut se borner au plan le plus fondamental, au plan de l'esclavage ou de la liberté à l'égard de la vie. Elle implique également la compréhension de la signification de la science et de la technique, de cette force que nous sommes en train de libérer. La solidarité des ébranlés s'édifie dans la persécution et l'incertitude. C'est là son front silencieux, sans réclame et sans éclat, même là où la force régnante cherche à s'en rendre maître par ses moyens. Elle ne craint pas l'impopularité, mais au contraire lui lance un défi sans parole. Ce n'est pas en se soumettant aux critères de la quotidienneté et à ses promesses que l'humanité pourra atteindre le terrain de la paix. Celui qui trahit cette solidarité doit se rendre compte qu'il nourrit la guerre, qu'il est un embusqué qui, à l'arrière, vit du sang d'autrui. Les victimes du front des ébranlés soutiennent et renforcent cette conscience. Amener tous ceux qui sont capables de comprendre à ressentir en dedans d'eux-mêmes l'incommodité de leur position bien commode, voilà le sens qu'on peut atteindre au-delà de ce sommet humain qu'est la résistance à la force, le dépassement de la force.
Merci beaucoup, Wesh du Mouawad, pour cette lecture. Donc c'est la suite du texte qu'on a entendu.
Directement, oui.
C'est le texte que vous lisez à vos étudiants.
Oui, cette idée, c'est-à-dire des embusqués.
Alors, la première phrase qui vous a marqué.
Ouais, la solidarité des ébranlés, c'est la solidarité de ceux qui... trahir la solidarité des ébranlés, c'est se rendre compte qu'on est... On a un embusqué qui, à l'arrière, vit du sang d'autrui. Cette phrase m'a amené à me poser la question, comment je m'implique, au fond? ok, je ne peux pas aller au front, je ne peux pas, et ça serait absurde, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Comment je m'implique? Socialement, comment je m'implique intimement, comment je m'implique métaphysiquement, comment je m'implique avec, comment j'enseigne, voilà, comment je transmets, comment je reçois ce qu'on me transmet, comment je transmets ce qu'on m'a transmis, comment je j'intègre la vie, comment je mets au service des autres ce qui est bien chez moi. On a tous un bien, entre guillemets. Voilà, vous travaillez à la radio, vous lisez des livres, vous préparez des émissions, vous avez à cœur de faire des choses bien. On a tous quelque chose de bien. Comment ce bien, je le reconnais, comment je le mets au service? Et comment je suis prêt à le risquer? Le risquer, c'est-à-dire rencontrer celui qui considère que cet acte que je considère être juste pour l'ensemble est considéré comme totalement injuste par l'autre. C'est-à-dire comment je confronte l'ennemi, comment je, non seulement je le confronte, mais comment je peux même aller, ça c'est pour reprendre la phrase de Kafka, faire en sorte que dans mon combat contre l'ennemi, je seconde l'ennemi contre moi-même, c'est-à-dire comment je vais de son côté, comment je vais voir comment il me regarde, comment j'épouse son point de vue pour comprendre, pour aimer et pour comprendre pourquoi je n'aime pas ce point de vue. Mais quand je dis je n'aime pas, c'est de manière vraiment très très puissante, très libre. Comment sortir du sectaire, quoi.
Vous avez trouvé la réponse à ce comment?
Parce que ça demande un dépassement constant.
Patočka parle vraiment de la solidarité des ébranlés, oui. Notamment comme un constat de ce qui se passe sur le front. Il se joue une solidarité entre des personnes ébranlées, entre des ennemis qui se tirent sur le front. Mais il en parle aussi dans ce texte qu'on a entendu comme d'une solution.
Oui.
Mais une solution, et alors là moi j'adore ce moment, et c'était aussi dans la suite de ce que vous lisiez, c'est pas un savoir objectif.
Non, c'est ça.
On n'est pas là pour donner des cours, pour dire comment faut faire, pour établir des principes. C'est vraiment quelque chose de quoi? De plus intime, il parle de compréhension.
Oui. Moi, c'est sûr que c'est dans la vie pratique que les choses prennent leur corps. Par exemple, je me suis rendu compte que dans des situations vraiment de tension, qui peuvent être très violentes, très fortes, avec des gens, ou avec un groupe, ou avec... Il y a un exercice que je fais toujours, constamment, c'est d'imaginer par exemple la personne avec qui je suis vraiment en conflit. Tout à coup, j'imagine son fils ou sa fille de 8 ans à côté de lui. Et je me dis, ce garçon de 8 ans ou cette fille de 8 ans n'aimerait pas voir son père ou sa mère en train de se faire hurler dessus, en train de se faire engueuler. Et ça me calme tout de suite. Tout de suite.
Donc ça, c'est votre remède à la colère?
Pas seulement à la colère, c'est mon remède à... Il y a quelque chose de viscéral en nous, où à un moment donné, devant l'insupportable, on peut vouloir humilier, on peut vouloir écraser, on peut vouloir vraiment détruire. Et c'est à ces élans-là, au fond, que répond aussi la solidarité des ébranlés, c'est-à-dire comment dépasser le refoulé? Au fond, quand on dit ouais, on ne voit la guerre que comme une espèce de d'emmerdement pour pas avoir la paix et qu'on veut tous avoir la paix, mais la paix devient dans ce cas simplement un refoulé si la guerre n'a pas été purgée, s'il y a quelque chose de cette
nuit. Si on n'a pas été jusqu'au bout justement de la douleur.
Si cette nuit n'a pas été purgée, elle devient un refoulé et le refoulé, il ressurgit, on le sait bien, il ressurgit toujours dans les moments, enfin d'une manière ou d'une autre et de façon encore plus violente.
Donc ce que vous lisez de Patočka, c'est non seulement cette solidarité des ébranlés, quelque chose qui s'adresse non seulement aux embusqués, mais à ceux qui ont une part, j'allais dire une part maudite, mais c'est pas le terme, quelque chose de mauvais aussi, c'est-à-dire s'adresse finalement à tout le monde, c'est-à-dire que sans avoir été sur le front, il y a quelque chose de dire où en êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous embusqué? Êtes-vous ébranlé? Ou êtes-vous refoulé, je dirais alors? Ce serait le troisième profil.
En tout cas, ce que ça veut dire, c'est reprendre en fait là un truc totalement sophocléen. Hein, c'est Sophocle. Il dit ne présume pas trop de toi, quoi. Ne sois pas convaincu de ta position morale qui te semble te convenir, parce que demain tu pourras la contredire. Ça revient un peu au fond dans la solidarité des ébranlés. Il y a une idée que Giorgio Colli va exprimer dans la sagesse grecque. Giorgio Colli, pour le dire rapidement, c'est celui qui a été l'éditeur de Nietzsche, c'est-à-dire celui, quand vous lisez Nietzsche, vous avez toutes les annotations en bas de page, c'est Giorgio Colli qui les a fait dans une édition très importante, et Giorgio Colli a écrit une réflexion sur la sagesse grecque où il dit toute la notion de la sagesse grecque repose sur une notion qui est la folie. On est fou, on est tous fous. Et la sagesse est née, la sagesse telle que les Grecs, les Grecs archaïques, donc Héraclite et compagnie, enfin vraiment, comment on maîtrise cette folie, comment on la gère, et une des conditions, c'est de savoir qu'elle existe. Mmh. Donc, celui qui va vous dire aujourd'hui, moi, vous savez, jamais je ne tuerai personne, celui-là, il est dangereux. Celui-là, c'est-à-dire celui qui oublie la folie, qui porte en lui...
Le mal
a une connotation peut-être un peu...
Trop morale.
Trop religieuse, alors que j'aime bien la notion de folie, parce qu'elle renvoie à l'oracle, elle renvoie à la pitié, au temple de Delphes. Mmh. Quand on voulait avoir l'avenir, on allait voir la pitié qui rentrait dans un état de folie et qui faisait parler une folie dont on ne comprenait strictement rien, parce qu'elle sortait des oracles dont on ne comprenait absolument rien. Après, il fallait aller voir un devin qui, on dit, la pitié, elle m'a dit machin, bidule, truc, muche, qu'est-ce que ça veut dire? Et le devin, il vous disait, t'es sûr que tu veux le savoir? Parce que la vérité, elle est quand même un peu dangereuse. Si je te le dis comme ça, tu risques d'aller te crever les yeux. Est-ce que tu veux pas là? On y va tranquillement. Donc, la raison pour laquelle la pitié parle par oracle énigmatique, c'est exactement là. C'est comme la pitié, elle met au monde un labyrinthe. C'est-à-dire, elle vous offre un labyrinthe. Et elle vous dit, OK, la vérité, elle est cachée à l'intérieur du labyrinthe. Pourquoi? Pour que tu ailles lentement. Parce qu'on peut pas aller en ligne droite dans un labyrinthe, on cherche, on sait pas. Bon, pourquoi il faut aller lentement? Mais parce qu'au centre du labyrinthe, il y a un monstre qu'on appelle la vérité, mais le Minotaure. Mais si tu veux aller l'affronter, cette vérité, eh bien, il va falloir faire comme Thésée, c'est-à-dire être un héros. Il faut te sacrifier et il faut que tu trouves un fil. Et le fil, c'est la parole, c'est la langue, c'est la pensée, c'est la raison. Ce fil-là, si tu le perds, tu pourras pas sortir vivant du labyrinthe. Tu pourras pas sortir vivant si tu ne vas pas au centre du labyrinthe rencontrer la vérité que la pitié vient de te donner pour savoir qui tu es. Eh ben, la solidarité des ébranlés, elle dit en gros, on est tous face à un labyrinthe au centre duquel il y a notre vérité, mais qui est un monstre. Et il faut, pour y rentrer, il faut dire au revoir à la lumière du jour, il faut dire au revoir à ses potes, il faut dire au revoir
à ses confort. Au savoir objectif, comme il dit.
Voilà, il faut rentrer. Mais tout le monde n'est pas prêt pour rentrer. Et ça, il n'y a pas de problème.
Enfin, un problème de courage
ça,
aussi.
Ouais. Mais ça, on comprend, ça prend du temps. On peut pas rentrer comme ça. Et bon, et ce qui est intéressant dans les essais hérétiques, mais ça, c'est arrivé beaucoup plus tard, c'est vraiment en fait la description d'une société qui a pour rôle de déconnecter tout le monde du courage pour entrer dans le labyrinthe, surtout la jeunesse. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on fait en sorte que toute la jeunesse, soit absolument démunie de tout courage. Et ne puisse avoir aucune envie d'aller chercher la vérité qui est la sienne au centre du... Vous dites, non, rentre pas, c'est horrible, c'est épouvantable, non, achète-toi un iPhone, tu vas voir, il y a des applications, puis va sur... Voilà, et là, en plus, tu peux donner ton opinion tranquille, derrière ton téléphone, c'est super, tout ce que tu veux dire, tout ce que tu penses, tout ce que tu veux dire, tu peux le dire, et avec, en plus, pas ton vrai nom, tu peux te cacher derrière...
Un avatar,
tu peux dire tout ce que tu veux, c'est génial. Et puis tu risques rien. Donc là, c'est un peu comme si tu rentres dans le labyrinthe, mais par jeu vidéo, quoi.
Ouais.
Et là, tu vas aller. Bon.
Sauf qu'il n'y a pas souvent de vérité à la fin. Hein, dans ce cas-là.
Il y a une illusion. Il y a vraiment une illusion. Et c'est pour ça, en fait, je me suis rendu compte que parmi les différents auteurs auxquels j'aurais pu pensée. J'ai voulu parler de Patočka peut-être à cause justement de ce que vous décrivez beaucoup mieux. Enfin, je suis content que de vous entendre parler parce que vous m'expliquez des choses que je n'avais pas vraiment compris.
Non.
Mais si, c'est vrai, c'est cette idée qu'au fond, oui, la nuit dans ce cas-là de plus absolu, une chose qui dépasse notre raison, est peut-être l'endroit où, dans notre société, on a le plus peur d'aller.
Je n'ai pas aimé le temps qui laisse des images aux souvenirs d'enfants que l'on garde en nos cœurs. Je n'ai pas aimé l'enfant qui grandissait bien sage à l'ombre des sarments, de vignes et de fleurs. Je n'ai pas aimé non plus les inquiètes en voyage qu'on rêve en se cachant pour les rêver plus longs. Je n'ai pas aimé, vois-tu, l'adolescent visage que portaient mes 16 ans, de mes filles, mes garçons. Je n'ai pas aimé la force qui me brisa les ongles pour avoir chapardé quelques verres de Cocteau. Je n'ai pas aimé l'écorce que bûcheronne à la longue les trop belles pensées où s'engendre le beau. Je n'ai pas aimé les mots que je rimais sans rire comme pour affirmer un poète dans moi. Je n'ai pas aimé le sot qui découvrait le pire dans l'ivresse un peu bête de la première joie.
Ouais, dis-moi, ouais, cette chanson pour introduire cette séquence de fin d'émission après avoir évoqué l'œuvre parmi d'autres qui a transformé votre vie, Jan Patočka, je le rappelle, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vraiment, décidément, vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi? Pour une fois dans cette émission, je n'en ai aucune idée.
Alors, je tiens à dire d'abord que c'est un auteur absolument extraordinaire, je tiens à le dire vraiment, qui écrit comme jamais j'arriverai à écrire, comme je n'arrive même pas à sa cheville, je tiens à le dire, tout ça, voilà, c'est vraiment, et c'est vrai. Eh ben, c'est Christian Bobin.
Christian Bobin.
Ouais, je n'arrive, c'est comme si j'ai, étrangement, je n'apprends rien quand je lis Christian Bobin. Peut-être parce que je suis trop proche de ce dont il parle.
Ah mais ça c'est intéressant, j'ai vécu ça cette semaine avec une série, je me suis dit je ne peux pas la regarder, tout le monde l'adore. Je ne peux pas la regarder, c'est trop... Autant j'aime bien regarder des choses qui sont familières, mais alors là vraiment, l'identification tue
le, ouais. En fait là c'est pas tant une identification que j'ai l'impression que ce qu'il dit, je le sais. Oui. Et donc, je passe mon temps à dire...
Mais pourtant, Patočka dit des choses que vous saviez, mais que vous ne parvenez pas à formuler.
Non, Patočka, il révèle des choses que je ne voyais pas. C'est comme s'il tournait le projecteur vers des parties de moi qui étaient dans l'obscurité et il les éclairait. Quand je lis Christian Bobin, alors son écriture est sublime, c'est ça, mais vraiment, quand je dis je n'aime pas, c'est je veux pas qu'on dise oh là là, je trouve ça mauvais, mais pas du tout, au contraire, jamais je pourrais écrire comme.
C'est pas l'exercice qu'on vous demande, hein, c'est vraiment quelque chose de plus de l'ordre de la résistance.
Mais c'est juste souvent je refais en me disant bah ouais, bah oui, bah bien sûr, bah oui, évidemment, bah oui, je sais, bien sûr. Et j'en avais parlé un jour à un copain, à François justement.
François Ismer.
François le lisait beaucoup. Je dis, François, moi c'est vraiment ça. Et François m'avait dit, bah oui, bah, t'es trop proche.
Merci beaucoup, Wesh, dis-moi, ouais. De vous, on peut lire vos leçons au Collège de France, c'est aux éditions du Seuil, sous le titre « Jusqu'au bord de son ravin, les verbes de l'écriture ». Votre leçon inaugurale « L'ombre en soi qui écrit » est disponible aux éditions du Collège de France. Je rappelle aussi « L'instant poésie », édition France Culture, édition Segers, avec votre choix de poésie, Wesh, dis-moi, ouais, qu'on peut encore écouter sur le site de France Culture. Et à partir du 21 janvier, au Théâtre de la Colline jusqu'au 8 mars, on pourra voir votre pièce « Willy Protagoras enfermé dans les toilettes ». Et enfin, pour les auditeurs, auditrices, lisez-les, les essais hérétiques de Jan Patočka. Ils sont disponibles aux éditions Verdier en poche dans la traduction de Erika Abrams. Et un grand merci à Manon Delasselle et Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation, à la lecture des textes, à Alex Dang à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.